franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, la psycholinguiste Ranka Bejeljak explique le bilinguisme chez les enfants.
Il y a toujours des inquiétudes, enfin pas toujours, mais souvent des parents ils ont des inquiétudes. Il n'y a aucune étude qui montre que c'est le retard du langage pourrait être dû au bilinguisme. Ça ne veut pas dire que les enfants bilingues vont rentrer dans les deux langues au même rythme et de la même façon. Donc il est très important donc, de suivre évidemment leur développement. C'est pour ça que j'ai essayé aussi de publier ce livre pour un peu rassurer les parents et puis aussi les mettre en garde et puis pour suivre un peu le développement de ces enfants. Quelquefois, ils parlent très très bien la langue de la maison et les enseignants de l'école ou la maternelle, ils disent ils sont mutiques, ils ne disent pas un mot. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont du retard du langage? Je pense que non. De l'autre côté, quand les enfants, quelquefois, ne parlent pas encore, ne commencent pas à parler à l'âge où on s'attend qu'ils commencent à parler entre 2-3 ans maximum, enfin à peu près à cette période, quelquefois on dit mais c'est parce qu'il est bilingue, donc il va parler plus tard. Et là aussi, il faut être quand même un peu vigilant pour savoir est-ce que c'est ça comme raison, ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes, comme des problèmes d'audition ou d'autres déficits. Donc il faut être un peu vigilant, un peu plus, sans de cela faire un problème et sans augmenter une anxiété et des inquiétudes.
Qui sera évidemment transmise à l'enfant en plus, donc rien n'a gagné de bénéfique effectivement, si ce n'est observer effectivement.
Observer, se consulter un peu et puis aussi stimuler finalement comme on fait avec les enfants monolingues, enfin stimuler en parlant, en conversant et avec d'autres supports, livres, histoires, musique, etc.
Alors, une bonne question d'Élise qui demande quelle attitude favoriser pour un bon apprentissage de ces langues chez l'enfant? Faut-il un interlocuteur pour une langue particulière? Alors
voilà, ça c'était un principe.
Comment
s'y prendre? C'était un principe qui était plutôt proposé, enfin qui était suggéré il y a un certain temps, un parent, une langue, parce que l'idée c'était que l'enfant va confondre les langues. S'il entend les parents parler souvent les deux langues, ça va être pour lui un chaos linguistique. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas du tout le cas, que l'enfant arrive très très bien, même si les parents parle un peu les deux langues, il allait très très bien les différencier. Et de l'autre côté, ce principe un parent une langue réduit un peu le contact, parce que souvent, si on est très strict dans cette stratégie ou dans ce principe, les parents ne veulent pas répondre à l'enfant lorsqu'il ne parle pas la langue que lui parle. Donc, du coup, ça peut aussi créer des problèmes de communication. Donc, ce qu'on essaie de proposer, c'est d'essayer de trouver des moments où on parle une langue avec son enfant, et puis d'autres moments où on parle d'autres langues, mais peut-être pas forcément tout mélanger à tout moment.
Mardi, Julien Perrault, le directeur de la Salamandre, et Jean-Pierre Vachet, herpétologue, parlent grenouilles.
Ce qu'on appelle les têtards, ce sont des larves, des stades larvaires qui peuvent durer très longtemps, même plusieurs années, avec des têtards qui passent l'hiver dans l'eau. Et puis inversement, des espèces qui vont avoir des développements en quelques semaines. Et sous les tropiques, il y a même des espèces qui peuvent se développer en l'espace de quelques jours. Ouais. Donc depuis le moment où l'œuf est pondu, enfin déposé, jusqu'à la métamorphose, il peut se passer 8 jours par exemple.
Ah oui, ça va vite. Julien Perrault, justement, vous parliez de signaux chimiques envoyés. Alors entre têtards, on s'envoie des petits signaux comme ça?
Alors entre têtards, on s'envoie des messages. Donc notamment si on se fait attaquer, on envoie un signal d'alerte chimique qui prévient les autres têtards qu'il faut aller se planquer. Ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est qu'en fait, ces têtards, ils ont ce qu'on appelle une plasticité phénotypique.
C'est-à-dire
que, par exemple, si vous prenez un aquarium avec de l'eau dans laquelle vous avez mis des prédateurs, par exemple des larves de libellules, et puis que vous prenez des têtards et que vous les mettez dans cette eau qui a simplement le souvenir de l'odeur de ces prédateurs, et ben le têtard réagit en changeant son développement.
Ça veut dire qu'il va... Qui a le souvenir? C'est l'eau ou c'est le têtard?
C'est-à-dire que s'il y a une ancienne odeur d'un prédateur...
Ah oui, c'est l'odeur.
Eh bien, le têtard, par exemple, il va développer beaucoup plus fortement sa queue pour nager plus vite. Et puis, ça sert aussi de leurre, parce qu'avec une grande queue, il y a plus de chances que le prédateur y morde la queue que la tête. Donc, ils sont capables vraiment d'adapter leur anatomie aux circonstances. Et s'il n'y a pas de prédateur, leurs organes se développent différemment. Et puis, il y a aussi des modifications dans le comportement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un plan d'eau, beaucoup d'amphibiens sont confrontés à ce problème. À un moment donné, ça s'assèche. Eh bien, sur certaines espèces de têtards, vous avez le développement en fait, qui se bloque chez la plupart des individus. Ils arrêtent de grandir. Il n'y en a que quelques-uns qui n'ont pas ce blocage. Et du coup, eux continuent à grandir et ils peuvent après dévorer les autres pour finalement qu'il y en ait au moins quelques-uns qui arrivent à se métamorphoser plus vite.
Mercredi, le neurobiologiste Bernard Sablonnière et l'écrivain Jean-Claude Bologne tentent d'expliquer le coup de foudre.
Il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle. Bon, on sait qu'il y a une synchronie comportementale, parce qu'on est bien l'un l'autre, on envoie un désir à l'autre, on récupère du plaisir et vice-versa. Donc il y a d'abord une synchronie comportementale. Après, on sait qu'il y a une synchronie dans la perception des émotions. On a tous les deux le cœur qui bat, on pense à l'autre tout le temps, on perd l'appétit, on n'endort plus. Ouais. Ça se passe des deux côtés. Et maintenant, l'étape, c'est d'essayer d'aller voir dans le cerveau...
Si les neurones aussi seraient capables de synchroniser.
C'est-à-dire que vous savez qu'il existe des neurones miroirs. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un manger un sandwich, vous avez faim, vous imaginez en train d'en manger un vous-même. Dans l'amour, c'est pareil. Et on commence à comprendre avec l'électroencéphalographie haute résolution, donc très sophistiquée, que lorsque on émet un désir vers le partenaire, il y a un rythme alpha qui se déroule dans la fréquence de résonance des neurones. Et quand on perçoit la récompense, le plaisir de l'autre, eh bien on passe dans un rythme d'oscillation gamma. Et on s'est aperçu que chez deux personnes qui exprimaient une forte émotion pour leur partenaire, ça se passait comme ça, des deux côtés. Donc il y a une véritable synchronie maintenant, quasi cérébrale, et il y a beaucoup d'études qui commencent à le démontrer de façon précise.
Ouais. Et cette synchronie justement s'estompe avec la dilution de la relation ou pas ?
Ah, forcément, puisque il y a plus cette espèce de phasage qui assure ce comportement d'attachement qui devient très très fort. Donc ça peut se diluer, bien sûr.
Jeudi, les cancers. Où en est-on aujourd'hui ? Hugues Deté, professeur de biologie moléculaire, apporte des éléments de réponse.
On vit une période assez extraordinaire qu'on pourrait finalement, dans le domaine des maladies infectieuses, comparer à ce qui se passait dans les années 40. C'est-à-dire qu'on a identifié des maladies, on a identifié des souches bactériennes, on connaît les microbes, et on commence à avoir les antibiotiques. On ne sait pas encore très bien comment les utiliser, ils ne sont pas encore accessibles à toute la population, mais on commence à voir que c'est possible. Et bien, je crois qu'on est tout à fait à la même époque pour le cancer. On a, grâce au progrès de la génétique, identifié des sous-groupes. On a créé des catalogues de maladies qui sont toutes les mêmes, qui sont très homogènes, mais elles sont très nombreuses. On peut même, dans certains cas, dire que certains cancers sont des maladies orphelines. Elles vont toucher moins de 100 personnes par an en France, mais ces 100 personnes vont avoir exactement la même maladie. Et en face de ça, on a donc des anomalies, des systèmes de contrôle de la prolifération, des mutations, des translocations chromosomiques, des accidents que les biologistes connaissent bien. On commence à comprendre l'effet de ces anomalies sur la croissance cellulaire et surtout, on commence à avoir des outils, on commence à avoir des médicaments qui sont capables d'interrompre ces circuits de prolifération. Alors, dans certains cas, l'utilisation de ces médicaments va permettre de guérir définitivement les patients de la maladie. Dans d'autres cas, il va rendre cette maladie chronique. Et donc, le patient va se sentir tout à fait normal, mais il aura toujours quelques cellules cancéreuses, mais qui sont sous contrôle, en quelque sorte. Et puis, dans d'autres cas, on n'a que des rémissions de courte durée. Et c'est bien sûr sur ces situations-là que les chercheurs, les médecins vont travailler le plus pour essayer de transformer, au fond, une petite rémission, une rémission prolongée, voire une guérison.
Est-ce que le ciblage vraiment du cancer avec les thérapies aujourd'hui qu'on essaie de mettre au point, c'est vraiment l'avenir dans le traitement de ces maladies, c'est-à-dire véritablement s'adapter quasiment au cas par cas ?
Alors je crois que c'est l'un des avenirs, très, très clairement. Il y a une autre chose dont on parle peu, c'est la prévention. Et la prévention, c'est certainement l'avenir. Parce que déjà, ne pas fumer, éradiquer le tabac de l'espace public, c'est certainement la meilleure chose qu'on puisse faire pour prévenir les cancers. Ouais. Les problèmes de nutrition aussi, on sait, sont extrêmement importants.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.